Comme promis, on vous propose cette magnifique trilogie que j'ai adorée. Je pense que je vais même la recommencer. Une chance qu'on s'aime. Chère Dolores, c'est le tome 2. C'est le tome 1 plutôt, c'est aux éditions Édito. On va vous parler des autres tomes également avec l'autrice Élise Lagacé qui a accepté notre invitation. Bonjour Élise.
Bonjour Sandra, comment merci ça de me recevoir.
Ah ben c'est un grand plaisir de pouvoir vous jaser. Vous êtes donc la femme qui a pensé à cette histoire, une chance qu'on s'aime avec notre chère Dolores. Dolores, ça vient d'où? Moi, aussitôt que j'ai vu le prénom, j'ai pensé à la chanson de Robert Charlebois. Est-ce que c'est ça qui vous a inspiré?
Oui, absolument. Puis il y a deux, je pense même trois. Là, bon, ça y est, j'ai déjà oublié. Mais il y a deux chansons, là. Il y a deux chansons très connues où il y a le prénom de Dolores. Puis la Dolores que tout le monde connaît, mais il y en a une autre. Te v'là telle que t'es, Dolores, là.
Oui.
Et puis ça répond quand même beaucoup au thème là, sous-jacent de la trilogie qui est de réussir à s'aimer soi-même, s'accepter soi-même. Puis c'est ce que j'aimais un peu dans la chanson de Robert Charlebois. Puis en fait, c'est que je cherchais le prénom de la femme ultime. Et je me suis. Quel prénom pourrait représenter un archétype de femme ultime, là, entre guillemets? Puis c'est ce qui m'est venu. Puis c'est clair que la fougue de Charlebois, puis ce qu'il a représenté aussi là, dans l'histoire de la musique, là, m'inspirait beaucoup.
OK, parce que vous parlez de fougue, mais Dolores, que vous nous présentez dans cette trilogie, une chance qu'on s'aime, elle est intense, elle est spontanée, mais elle est impulsive aussi.
Oui, oh oui. Puis ce n'est pas moi. On va commencer par là.
On va mettre les choses au clair.
Oui. C'est un amalgame, là, évidemment, là, mais puis souvent, moi, personnellement, c'est le personnage qui me tape le plus sur les nerfs. Je la trouve beaucoup trop impulsive, beaucoup trop tête brûlée. Fais pas attention aux autres, fais pas attention à elle. Après moi, le déluge. Mais je l'aime pareil. Puis c'est ça aussi, l'enjeu de toute une vie, là, d'en arriver à ce niveau d'acceptation qui fait en sorte qu'on se sent libre de faire plus ou moins ce qu'on veut, mais en tout cas de faire les erreurs qu'on a besoin de faire. Là. Mm-hmm. C'est beaucoup ça qui traverse le personnage là, de l'héroïne.
Oui, elle a même le goût de vivre un peu son adolescence. On dirait qu'elle revient dans le temps à un certain moment donné, notre chère Dolores.
Oui, puis c'est un peu, comment je peux dire, c'est un symbole, effectivement, là, mais dans l'absolu, c'est la mère qui tente de reprendre le dessus sur le rôle de mère, mm-hmm. qui tente de redevenir un humain derrière la fonction, en fait, de mère qui est très demandante. Là, j'ai mis ça au maximum, là, 3 enfants, 3 garçons d'âge quand même assez rapproché, donc pendant toutes ces années-là, là, elle les a élevés sans soutien, donc elle a un peu assisté à sa propre disparition, puis elle essaie de se remettre au monde elle-même. Là. Donc, ça peut ressembler effectivement à une crise d'adolescence, là, une quête initiatique, ça l'est certainement. Là.
Oui, certainement. Alors, notre chère Dolores se retrouve mère monoparentale avec un ex qui, lui, n'aspire qu'à sa fameuse carrière d'Hollywood. François, qui préfère se faire appeler Frank, bien entendu. Elle retourne dans son village natal. Son père est décédé. Mais là, elle a un héritage qui n'est pas pour lui faciliter la vie, loin de là, là.
Non, ça la ramène à ses racines. Puis, tu sais, je travaille beaucoup sur les archétypes. Là. Ça revient souvent dans mes conversations. C'est que Frank, c'est le partenaire vedette. Il y a de nombreux couples ou de nombreuses familles où la vie de famille tourne autour d'une personne pour différentes raisons. Ça peut être parce que c'est un fermier qui a des horaires de travail absolument incroyables qui fait en sorte que la famille au complet doit se mobiliser autour de lui. Mm-hmm. Sur une ferme laitière, ils vont travailler jusqu'à 10-11 heures le soir. L'été, ils vont faire les foins. Donc, c'est vraiment l'archétype de ce cœur familial forcé. Des fois, on va avoir un parent qui est plus violent. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est la vie de famille va tourner autour de ce parent-là plus difficile. Parfois, ça va être un enfant. Aussi, ça va être un enfant qui a des besoins spéciaux duquel on doit s'occuper davantage. Donc, c'est vraiment l'archétype de la vedette familiale, là, entre guillemets. Puis le garage, c'est beaucoup le legs. Puis bon, moi, forcément, là, les filles de ma génération, on travaille beaucoup le rapport au père. Mais c'est le legs que son père lui a laissé, mais c'est aussi le legs de sa relation là, mm-hmm. avec son père, puis avec les hommes en général. Là, il y a 3 trios d'hommes à travers le roman qui la forcent à travailler là, justement ce rapport-là à l'homme, mais aussi au masculin. Parce qu'il y a un masculin qui est très actif dans le personnage de Dolores. Elle a un féminin qui est bien assumé, mais elle a un masculin qui est très actif. Donc, c'est ça aussi là, que je cherchais à questionner à travers le legs du garage.
Oui, il faut le dire, elle connaît connaît ça, les chars Dolores.
Oui. Ça, oui. Ah oui, ah bon. Oui. Oui. Puis j'en ai rencontré des femmes qui connaissent aussi bien ça, les chars, en bon français, là, puis ouais. Ça m'a surpris. Ah oui, puis des histoires là, de remorqueuses en talons hauts, en mini-jupe, qui changent des batteries en plein milieu des batteries de chars en plein milieu d'un boulevard à l'heure de pointe. On m'a raconté des histoires sur les femmes habiles avec les voitures là, que je ne m'attendais même pas à recevoir.
Ah, incroyable. Ah, oui. C'est vraiment, parfois c'est rocambolesque, on se demande vers où vous nous amenez, mais... à la fin du troisième tome, on comprend tout. C'est tellement beau. C'est une lecture qui est captivante, Élise, tout en humour aussi, parce que c'est important d'insérer l'humour dans cette histoire, dans ces trois romans.
Oui, oui. La vie, c'est souvent drôle. La vie, c'est même dans les drames, à un moment donné, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont drôles. Là, à un moment donné, quand on réussit à prendre ce parti pris de l'humour, parce que pour moi, c'est un parti pris. T'sais, j'ai deux partis pris, je dirais, la poésie puis l'humour à travers tout ça. Puis je pense que pour travailler le drame, parce qu'on va se le dire, là, il y a quand même un drame qui se joue en dessous de ça, puis qui se dévoile à la fin. Pour aborder le drame, il me semble, c'est nécessaire d'avoir à la fois ce sens de la poésie, mais aussi ce sens de l'humour, parce que sinon, on s'en sort pas, là. Mais ouais, c'est drôle.
Ah,
j'ai ri beaucoup. J'ai ri autant que j'ai pleuré.
Ben, de mon côté, c'est la même chose. J'imagine que c'est pas facile de laisser ces personnages-là les mettre de côté pour passer à autre chose en tant qu'auteur.
Ah non, et c'était épouvantable. Pour vrai, là, j'avais fait un premier roman là, en 2012-13. C'était un petit roman avec une galerie de personnages intéressantes, puis j'avais eu de la difficulté à faire le deuil. Mais là, ça, j'en ai eu pour 2 mois à pleurer. C'était un vrai deuil, là. Ils étaient tous morts, là. Je ne pouvais plus passer mon temps avec eux. C'était terminé. Ça a été quelque chose. Je ne m'y attendais pas, je vous l'avoue.
Alors, l'univers de Dolores s'écroule. On l'apprend dès le premier tome, chère Dolores. Le premier est sorti quoi? C'était en 2022, Élise?
Oui, 2022.
Le troisième, c'était Respire, Dolores. Ça, c'est
le deuxième, c'était Respire. Ça, c'était en 2023.
Respire, oui. Ouais. Et là, Bravo, Dolores, qui vient tout juste de sortir. Les trois romans sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci de nous offrir ces belles histoires là autour de Dolores. Parce que, oui, il y a l'histoire de Dolores, mais il y a plein d'autres petites histoires attachées là, autour d'elle. Hein, avec ses frères, ses amis, sa tante et ses enfants qui sont savoureux dans leur langage à part ça. Là. Vous avez fait beaucoup de... J'ai l'impression... Vous êtes laissé aller ou vous avez fait beaucoup de recherches là, pour les... Parce que dans les dialogues, là, vous êtes lâché lousse. On est dans un langage beaucoup plus familier, là.
Oui, puis ça, c'est un travail que je fais dans tous mes romans, la rupture de style entre les pavés de narration qui vont être beaucoup plus poétiques et les dialogues qui sont très concrets, là, comme dans la vraie vie. Pour moi, c'est une question de respect de la réalité. Pour moi, écrire vrai, ça veut pas dire écrire seulement de manière familière, je veux dire. La vérité aussi, elle est dans la poésie. Donc, des fois, pour représenter ce qui est vrai, faut aller un petit peu plus, faut aller une coche au-dessus. Mm-hmm. Des fois, pour représenter la vérité des dialogues, ben là, faut redescendre un peu. Puis chaque scène est écrite du point de vue de chacun des personnages qui sont présents dans la scène. Donc, je vais réécrire la même scène plusieurs fois. Donc, s'il y a un dialogue entre Franck et Dolores, je vais l'écrire du point de vue de Franck, je vais l'écrire du point de vue de Dolores. Je cherche vraiment beaucoup la vérité dans mes écrits, puis c'est vraiment par respect. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui vit ce que je suis en train d'écrire, c'est sûr, sur les milliards d'humains sur Terre.
Hey, oui.
Puis pour moi, ça serait irrespectueux de pas essayer d'aller chercher la vérité de ça. Parce que dans l'absolu, quand j'écris mes romans, moi, je souhaite que les gens s'y sentent bien. Je serais pas capable d'écrire des romans où quelqu'un pourrait se sentir mal à l'aise ou blessé ou heurté. J'essaie vraiment que ce soit accueillant comme univers, là, même si c'est pas toujours facile. Là, j'écris pas nécessairement des choses toujours faciles, mais j'essaie de l'écrire dans le respect de la vérité des gens qui vivent peut-être cette même situation-là à ce moment-là.
Très réussi. Ouais. En terminant, dernier point. Au début de l'entrevue, Élise, on a parlé de la chanson Dolores, la musique, là, les différentes chansons là, sur lesquelles Dolores trippe, là, on les retrouve au fil des trois tomes. Là.
Oui, la musique, pour moi, c'est extrêmement extrêmement important, là. J'ai pas honte de dire, là, je suis quelqu'un qui a vécu des traumas dans sa vie, puis la musique est ce qui m'a tenu tout le temps. Je pense qu'il y a un des tomes où je l'ai écrit, là, moi, sans les musiciens, sans les auteurs, compositeurs, je sais pas ce que je serais aujourd'hui, là. Et la musique, pour moi, c'est un souffle, c'est un respire qu'on retrouve aussi dans l'écriture. Donc, pour moi, les deux sont, la musique et la littérature sont très, 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 très proches. Donc, pour moi, c'était essentiel d'aller, comment je peux dire, rendre hommage à cette trame sonore de ma vie qui a
Oui.
été là, mon guide et mon accompagnateur, je dirais, là, depuis toujours, là.
Et les différentes chansons, ben, ça nous amène à bien suivre le processus là, que suit, si on veut, là, Dolorès, bien entendu.
Oui, parce que c'est construit de manière là, consciente. Là. Il y a vraiment une suite, il y a une éditorialisation de la trame sonore là, qui vient compléter absolument là, chaque chapitre.
J'ai été écouter certaines pièces que je connaissais moins, je dois vous dire, là. Un exercice très intéressant. Une chance qu'on s'aime aux éditions Édito avec Élise Lagacé. Divertissement garanti, tourbillon d'émotions, de belles émotions avec Élise Lagacé. Merci beaucoup pour ces quelques minutes.
Merci infiniment. Bon été.
Ben, merci à vous aussi.
Au revoir.
Bye bye.